Avec en direct par téléphone Isabelle Stengers, nous allons donc parler de Autant des catastrophes, résister à la barbarie qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Isabelle Stengers, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonjour.
Alors, on va commencer par une première question sur ce qui est à propos de ce court texte d'introduction. Vous annoncez que Autant des catastrophes est une intervention. Est-ce que ce type de texte vous permet une plus grande liberté ?
Ça permet une liberté, mais une liberté très contrainte, parce que le but d'une intervention, c'est une certaine efficacité et ça répond à une situation que l'on vit au présent. C'est pour maintenant une intervention, c'est pas pour quelque chose à lire dans 30 ans, ça fait pas partie de grands classiques de la pensée. Donc ici, ça répond à cette situation qui est absolument étrange, parce qu'elle est à la fois cruciale et elle nous prend en plein désarroi de ce raccourcissement des échelles de temps que nous savons depuis quelques années finalement. On parle toujours des générations futures, mais désormais les générations futures, elles sont déjà là. Ce sont les enfants qui sont déjà nés et qui dans deux décennies, nous demanderons ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait et pourquoi. Donc l'intervention, ça répond vraiment à une nécessité au présent.
Alors, justement, une intervention qui répond aux nécessités du présent. J'ai l'impression, à la lecture d'Autant des catastrophes, que ça a été écrit dans un élan de colère.
De colère peut-être, mais de colère maîtrisée, parce que quand on est en colère, il faut encore chercher aussi comment le dire, comment le faire passer. Il y a donc une fabrication de la colère, mais il y a certainement une colère par rapport à la situation de schizophrénie où nous sommes plongés aujourd'hui, et encore beaucoup plus depuis la crise financière, où on entend parler de nécessité de relance et où il n'y a aucune pensée tout à coup de l'articulation entre les quelques années que nous vivons maintenant, que nous allons vivre difficiles du point de vue de la crise financière, et celle encore beaucoup plus, peut-être encore beaucoup plus grave, surtout beaucoup plus grave, oui, qui commence, qui sont aussi ces années où il va falloir décider si nous allons prendre au sérieux ce qui est en train d'arriver, ou si nous allons laisser venir la barbarie qui va venir si nous ne faisons rien.
Alors, là du coup, on a le sentiment d'un sentiment d'urgence. Vous aviez envie d'écrire ce livre dans un sentiment d'urgence temporelle ?
Ben, je crois que l'urgence temporelle répond à ce qu'on nous dit. On nous dit que ceux qui, ont réussi à tirer la sonnette d'alarme ne nous disent pas en général « Faites attention à long terme », ils nous disent « Si nous n'avons pas réussi à réduire, disons en gros, globalement de 80% nos émissions de CO2 d'ici 2050, mais vous vous rendez compte, 80%, alors que pour le moment, elles augmentent encore, eh bien, la Terre, à la fin du siècle, sera vraiment très, très difficilement vivable, ce qui signifie d'ici là, évidemment, guerre, famine, tout ce qu'on peut imaginer. Donc vraiment, l'urgence, c'est maintenant ou bien, bon, on survivra, je ne suis pas une catastrophiste disant qu'il n'y aura plus un seul humain sur Terre, mais en tout cas, ce sera la barbarie, c'est-à-dire que ça aurait été le sauf qui peut dans une incapacité de coopération et d'imagination.
Et est-ce que c'est ça ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, c'est-à-dire des ouvrages qui fasse surgir cette question de l'urgence actuelle?
Je crois que l'un des points, il y a d'autres personnes qui s'activent. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les objecteurs de croissance qui nous montrent la possibilité de vivre autrement et que ce n'est pas triste. Le fait qu'ils puissent dire « et ce n'est pas triste » est quelque chose de véritablement important et crucial. Mais nous sommes dans une situation profondément piégée, puisque d'une part, il y a l'espèce de petite musique, de petite ritournelle. Oui, c'est une crise, mais l'humanité n'a fait que traverser des crises et on s'en tirera finalement. Et on a envie de le croire. On a envie de penser que ça passera si on serre les dents et si on reste très courageux. Et puis, il y a aussi la crainte, finalement, que au nom de... au nom de l'urgence écologique, on nous somme d'oublier nos conflits et de faire une mobilisation générale. Et ça, ça peut produire aussi une forme de barbarie. On peut parler d'écofascisme, de fin de l'ensemble des espoirs et des luttes pour un monde qu'on pourrait appeler démocratique au sens fort, c'est-à-dire un monde où la pensée des gens compte.
Vous abordez donc toutes ces... Là, vous venez de décrire un peu les différentes thématiques de votre livre. Vous abordez toutes ces questions au travers de la science, de la technoscience. Et là, on retrouve vos travaux antérieurs sur la science en tant qu'autorité.
Ben, disons que j'aborde la question de la science, primo, parce que là, j'ai des choses à dire peut-être plus précises que dans d'autres registres. Mais aussi parce qu'on a une certaine tendance à faire confiance dans les miracles de la science et de la technique pour nous protéger du pire et pour justement nous sortir de la crise, de ce qui ne serait qu'une crise. Or, le problème, c'est que même du point de vue scientifique, nous sommes aujourd'hui plus mal équipés que jamais. C'est ce que j'essaye de dire. J'essaye de dire que au cours de ces 20 dernières années, disons, ça a commencé en 80, mais en sourdine, la recherche scientifique sur laquelle nous devrions pouvoir compter, qui nous sera indispensable, a été véritablement appropriée par le capitalisme. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Ce qui fait que les scientifiques, eh bien les scientifiques, il faut aussi qu'il y ait une lutte de leur côté pour que leurs idées, leurs propositions soient importantes et intéressantes du point de vue de notre avenir et non pas des profits que peut faire le capitalisme.
Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge dans votre livre, c'est ce que vous appelez l'événement OGM.
Oui.
Et là, vous dites qu'il offre un exemple d'un couplage d'un type nouveau entre lutte anticapitaliste et production de pensée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça?
Je crois que c'est très important et que c'est peut-être une chose que je propose dans ce livre, c'est de pouvoir célébrer des événements positifs, des événements qui peuvent contenir une promesse, même si ce sont de tout petits événements. Parce que finalement, l'événement OGM, le fait qu'il y a eu résistance, longue résistance, ça continue en Europe par rapport aux OGM végétaux, donc à la redéfinition de l'agriculture, ça n'a pas empêché qu'il y a des OGM en Amérique du Sud, qu'il y a des OGM en Inde, qu'il y a énormément d'OGM au Canada et aux États-Unis. Donc on n'a pas bloqué les OGM, mais on a fait grincer la machine. Et ce qui est d'intéressant, c'est que ceux qui ont été de près ou de loin, je ne suis pas directement mobilisé par cet événement, en temps continu, mais ceux qui y ont participé de près ou de loin ont tous appris quelque chose. Et ça, c'est l'événement. Il y a eu une production d'intelligence collective et une alliance et des entre-échanges entre des raisons de résister aux OGM qui étaient différentes au départ. C'est en ça que constitue l'apprentissage, au fond. On aurait pu penser, et le fait que ça n'a pas eu lieu, c'est l'événement, qu'on en serait resté à une espèce de position, nous sommes contre les OGM, qui aurait presque même pu être anti-scientifique, ou bien on n'a pas le droit de toucher à la vie, ou des choses pareilles. Et on aurait pu, à ce moment-là, dire que ceux qui résistaient aux OGM étaient simplement des anti-rationalistes, anti tout ce qu'on veut, monter de l'irrationalité, etc. Donc ça aurait pu en rester à une opposition frontale assez stérile. Or, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'on pourrait dire, et ça m'a profondément intéressé, que la rationalité, on pourrait le dire, a changé de camp. C'est-à-dire que cet apprentissage que les différents opposants ont fait les uns grâce aux autres, ont fini par faire complètement bafouiller les spécialistes. Les spécialistes qui étaient là pour nous ramener à la raison, pour montrer au public que les OGM c'était bon, que c'était parce qu'on ne comprenait pas qu'on s'y opposait, etc., se sont vus opposer des objections à ce point pertinentes auxquelles eux-mêmes souvent n'avaient jamais pensé, que on a pu sentir, et je crois que même le public l'a senti, que tout à coup, oui, la raison, on pourrait dire, avait changé de camp, Et on a commencé à apprendre énormément sur la manière dont notre avenir concrètement se fabrique. On a pu commencer à apprendre des choses très concrètes, alors que jusque-là, au fond, on était souvent, moi en tout cas au départ, dans une certaine abstraction. Et cette production d'intelligence collective, c'est ce dont nous avons absolument besoin si on veut ne pas se laisser prendre à tous les miroirs aux alouettes pour, entre guillemets, sauver la planète qui vont nous être proposées. Et ceux qui ont lutté autour des OGM peuplent désormais la scène et s'activent à montrer ce que peuvent être les miroirs aux alouettes, comme par exemple les biofuels, comme solution miracle qui nous permettrait de continuer à vivre dans l'avenir comme nous vivons aujourd'hui.
Alors vous dites, et ça c'est une phrase forte, que la rationalité, la raison a changé de camp. Mm-hmm. J'ai envie de vous demander, grâce à qui ? C'est qui a réussi ce changement comme ça ? Alors c'est collectif, mais est-ce que ce sont d'autres scientifiques dissidents, des philosophes comme vous ?
Je crois que c'est un événement, et c'est pour ça que je parle d'un événement, c'est un événement au sens où la sauce prend, on pourrait dire, c'est-à-dire où ce que disent les uns se mettent à prodigieusement intéresser les autres, et ce que disent les gens peuvent être entendus sur un mode qui donne d'autres arguments à d'autres lignes, au fond. Par exemple, quand on s'est rendu compte que les OGM sur le terrain posaient des problèmes tout à fait différents de l'OGM tout nu, au fond, de l'OGM étudié au laboratoire, qu'il y avait des problèmes de résistance aux herbicides, qu'il y avait des problèmes de contamination génétique, qu'il y avait des problèmes de résistance justement des insectes contre lesquels les OGM pesticides sont fabriqués, on s'est rendu compte du même coup que tous les scientifiques qui connaissaient ce genre de problèmes étaient en fait de grands absents. On s'est rendu compte qu'il y avait une hiérarchie dans l'expertise scientifique qui faisait que c'était les biologistes de laboratoire et leurs abstractions, en totale ignorance de qu'est-ce que c'est des OGM sur des centaines de millions d'hectares, eh bien que c'était eux qui étaient les porte-parole des OGM. Et donc, par exemple, tout à coup, cette hiérarchie à l'intérieur des sciences est devenue un élément de l'événement, et un élément qui n'était plus épistémologique ou autre, c'était plus de la philosophie des sciences, c'était immédiatement de la politique. De la même manière, quand on s'est rendu compte, et ça, certains sociologues ont agi, que réunis autour de ce problème des citoyens quelconques, mais qui acceptaient de se réunir et de passer du temps, et pas simplement de répondre à froid à des questions qu'on leur assénait, non, quand ils réussissaient à, quand on leur donnait l'occasion de penser ensemble, ils posaient des questions extrêmement intelligentes, extrêmement fines, et terriblement douloureuse par rapport aux responsables politiques, eh bien, tout ça s'est mis à s'entre-répondre et à donner cette espèce de densité qui fabrique, au fond, une position, encore une fois, où on n'a pas besoin de dire on est contre la science, on est contre la technique, on est contre l'OGM comme abstraction. Non, cette science, cette technique, ces OGM-là, non merci. Et on peut dire pourquoi non merci et qu'est-ce que c'est cet OGM-là.
Vous avez parlé de ces personnes-là qui ont fait basculer le débat. Mm-hmm. Vous avez parlé de sociologues. Est-ce qu'un, par exemple, un sociologue des sciences comme Latour a pu jouer un rôle, ou est-ce qu'il vous a influencé dans votre manière d'approcher la question ?
Bruno Latour est resté un peu en dehors de cet événement, mais il est certain que son livre « Les politiques de la nature » donne beaucoup de mots éminemment efficaces pour parler justement de cette transformation de ce qu'on appellerait rationalité. Par exemple, dans le Parlement des choses tel qu'il l'imagine dans « Politique de la nature », la première question à poser, c'est « Combien sommes-nous ?» Et combien sommes-nous, ça veut dire combien de voix doivent être réunies, de voix collectives, mais liées à des pratiques et à des savoirs diplômés ou non, savoirs des paysans aussi d'ailleurs, par exemple. Combien doivent être réunies pour que la situation, la proposition, ce qui est proposé là, soit déployée dans toutes ses dimensions. Et ça, ça lie la fiabilité de l'innovation avec une vision, une conception extrêmement exigeante de la démocratie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de voter, il s'agit de produire des situations telles que, au fond, quand on dit oui, X et Y sont concernés par cette situation, eh bien qu'ils le soient effectivement, c'est-à-dire qu'ils aient le pouvoir d'objecter, de dire non, de dire oui, mais, et de produire, au fond, le savoir que cette proposition, que cette innovation rend pertinent. Bien, ça, c'est déjà effectivement une opération que lui présente comme allant de soi, mais ça, c'est le style de Bruno, mais qui est radicalement subversive par rapport à nos politiques de l'innovation.
Et donc, j'en viens, est-ce que le scientifique qui travaille dans les technosciences a besoin actuellement et constamment, du coup, de l'apport critique du scientifique, du sociologue, du philosophe? C'est votre travail à vous également en tant que philosophe.
Oui, mais je crois que les sociologues ont été intéressants justement parce qu'ils ont montré comment on pouvait faire de la mauvaise sociologie, c'est-à-dire asséner des questionnaires à froid, hein, des gens qui s'en fichent pas mal. Donc ils ont montré un possible, mais ce possible peut être aussi actualisé dans ce qu'on appelle les jurys citoyens, où là aussi le dispositif est fait pour que ceux qui participent aient la capacité de, non pas seulement de donner leur opinion, mais d'apprendre avec expertise, contre-expertise, etc., à formuler le problème et à, au fond, expertiser les experts. Ça me semble très intéressant. De la même manière, les philosophes, ils peuvent apporter des mots dont ils peuvent penser que ça peut permettre d'éviter des pièges, d'éviter qu'on s'enferme dans des contradictions et qu'on soit affaibli par des hésitations qui tiennent aux mots qu'on emploie. Donc on peut travailler, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut rien si des processus concrets de production d'intelligence collective ne se produisent pas. Là, on peut les appeler, on peut créer les mots tels que quand on les appelle bien, on peut faire beaucoup de choses de ce genre, mais on ne peut absolument pas remplacer ce qui doit se produire.
Je vous pose cette question parce qu'au début de votre livre, toujours à propos de l'événement OGM, vous écrivez que vous avez été doublement naïve. Vous dites que tout d'abord, vous avez été naïve en ignorant que ce sur quoi travaillaient les experts était le dossier préparé par l'industrie. Mm-hmm. Et qu'ensuite, vous avez été naïve à propos des champs expérimentaux.
Oui.
Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, parce que vous êtes quand même une personne très, très informée. Quels ont été pour vous les éléments déclencheurs de votre réaction à propos des OGM?
Et disons qu'au départ, encore une fois, j'avais une vision assez abstraite. Parce que les informations qu'on avait, qui étaient les informations officielles, étaient abstraites et partiellement, plus que partiellement, mensongères. Donc, je m'intéressais aux OGM parce que, de manière générale, je pense qu'une technique est d'autant plus fiable que, justement, elle doit rencontrer des objections. Pour donner un exemple, si les centrales nucléaires sont un tout petit peu fiable, c'est à cause de l'énorme campagne qui a eu lieu dans le passé dénonçant leur danger. Donc c'est parce que justement il y a objection que éventuellement il peut y avoir fiabilité. Donc c'était une position de principe, mais finalement je ne savais pas véritablement ce qu'étaient les OGM. Et donc, par exemple, quand on parlait de champs expérimentaux et qu'on sous-entendait, ou même on entendait que c'était là pour répondre aux questions que nous nous posons à propos des OGM, je ne me méfiais pas. Ça ne m'intéressait pas tellement, mais je ne me méfiais pas. Ça m'a beaucoup intéressé quand, justement, dans ce réseau auquel j'ai été introduit par un étudiant, et qui fonctionne notamment sur le web, j'ai compris que j'avais été dupe. Et je le cite non pas pour me labourer la poitrine, mais parce que je crois qu'il faut apprendre, surtout quand on est intellectuel, à dire « je suis redevable de ». Grâce à X qui n'est pas intellectuel, j'ai appris. Grâce à X, je pense. Donc il faut se situer soi-même, non pas en surplomb, Voilà une belle illustration de mes thèses, mais vraiment dans l'événement en tant que sa pensée a été modifiée, en tant que d'une certaine manière on est aussi enfant de cet événement. Et ça c'est vraiment, je crois, une position éthique et délibérée que j'essaye de construire, de dire merci à ce qui, à mon époque, nourrit ma capacité d'espérer encore malgré les probabilités.
Et donc là, du coup, ça pourrait créer une sorte de réseau d'alerte du savoir. Et là, j'arrive maintenant à un autre fil rouge qui me semble important dans votre livre. C'est cette question du rôle des citoyens qui ne sont ni des entrepreneurs, ni des scientifiques. Et vous évoquez par exemple les conférences citoyennes, vous évoquez les mouvements d'usagers. Mmh. Et votre livre, j'ai l'impression, s'adresse souvent à eux, de manière indirecte, pour leur indiquer les dangers auxquels ils devront faire face.
Disons que j'emploie plus souvent usagers ou commoners, donc ceux qui ont un commun. C'est ce qu'on a en Angleterre, c'était ceux qui justement vivaient des commons qui ont été expropriés par les propriétaires, donc à la fin, au début du 18e siècle, la fin du 17e déjà. Et je les préfère aux citoyens, justement parce que le citoyen, c'est un peu une abstraction, à part qu'il vote et qu'il a, une grande responsabilité de citoyenne, on ne sait pas très bien ce que le citoyen sait, veut, etc. Par contre, les usagers, eux, m'intéressent au sens où une des choses contre lesquelles je veux résister dans ce livre, c'est ce savoir, c'est cette sale petite musique qui dit « De toute façon, les gens ne seront pas capables de changer. De toute façon, les gens demandent un chef. De toute façon, les gens resteront passifs tant que il ne sera pas trop tard, etc. » Une petite musique de l'impuissance qui nous empoisonne, je veux dire, qui est en moi, qui fait que je peux aussi douter. Et donc, intervenir, c'est aussi intervenir par rapport à soi, parce qu'on est empoisonné. Et ce que je veux dire dans ce livre notamment, c'est que le capitalisme, parce qu'il s'agit d'un livre anticapitaliste, vous l'aurez compris, n'a pas seulement été, le grand exploiteur, comme l'a dénoncé Marx, ça a été aussi le grand destructeur de nos ressources d'intelligence collective. Et de ce point de vue-là, l'expropriation des commons, ce qu'on appelle les enclosures, n'a pas seulement détruit les moyens de vivre des paysans pauvres, mais aussi détruit leur capacité d'organiser ensemble, de travailler ensemble, au fond d'être des usagers ayant éventuellement des intérêts différents, mais qui pouvaient s'articuler autour de ce qui les réunissait. Et donc, c'est cette production de savoir collectif autour d'une situation concrète qui m'intéresse. C'est elle, au fond, que j'avais trouvée chez les scientifiques. Les scientifiques sont réunis par leurs problèmes, par le problème qu'ils posent. C'est ce que j'essayais d'expliquer, notamment dans l'invention des sciences modernes. Par contre, ils se sont laissés exproprier par l'économie de la connaissance qui menace de les éparpiller, de les laisser chacun, mort du point de vue de cette intelligence et purement et simplement au service des industries dont le partenariat est devenu un impératif. Par contre, les informaticiens ont résisté, certains informaticiens. Ils ont créé et ils ont su que leur résistance s'inscrivait dans l'histoire des enclosures, puisque ce qu'ils ont voulu faire avec le brevet GNU, par exemple, c'est, on parle de Creative Commons, c'est justement défendre ce qui leur permet de penser ensemble, une ressource qui les réunit et qui, si elle est appropriée, les laissera complètement au service de qui les payera. Donc il y a là une lutte contre le capitalisme en tant que destructeur des intelligences, des formes d'intelligence collective, qui me semble tout à fait important d'envisager, parce que cela permet aussi de sortir de cette espèce de culpabilisation. C'est notre faute, nous ne réagissons pas, nous sommes incapables de... Non, ce nous qui se plaint, c'est le nous qui a été, au fond, le produit des ravages que nous subissons depuis deux siècles.
Alors, on va continuer sur les usagers. Je vous cite, « Je fais allusion ici à une difficulté bien connue des mouvements d'usagers qui ont conquis le droit d'intervenir dans les débats techniques dont ils étaient exclus. Ce moment de réussite relative le moment où l'on passe d'une position de contestation à une position de partie prenante, et aussi le moment de tous les dangers. Mmh. Et donc là, j'ai l'impression que vous souhaitez vraiment donner des pistes à ces mouvements d'usagers pour éviter ces dangers.
C'est une piste, mais à chaque mouvement de la fabriquer, effectivement, c'est une indication. Et c'est une indication au sens où je sais très bien que certains, et notamment certains marxistes, diront « Oui, mais les mouvements d'usagers, c'est très sympathique, mais ça ne fera jamais un bon rapport de force, justement, parce que c'est trop facile à empoisonner. Tout à coup, les usagers se retournent contre les travailleurs et détricotent sans même le savoir des rapports de force qui ont été péniblement acquis. Ils deviennent partie prenante, etc. » Et la thèse que je défends, ou le mode d'intervention que je choisis là, c'est de dire « Oui, c'est dangereux. » Et donc, ça veut dire que les mouvements d'usagers ne doivent pas se vivre comme une espèce de spontanéité innocente, seule bonne, toute bonne, et puis s'étonner de l'échec. Non, ces mouvements doivent se savoir, se produisant dans un milieu qui ne leur voudra pas de bien, qui pourra aussi bien les accuser de trahison que de radicalité ou d'irresponsabilité. Ils doivent se fabriquer, et ils doivent, me semble-t-il, se fabriquer en prenant activement en compte, effectivement, ce qui, de manière très prévisible, peut les empoisonner, peut créer, justement, un échec. Donc l'idée n'est pas « tout ira bien si les usagers se réunissent ». Non, non, c'est tout un art de réunion, mais c'est un art de réunion dont on a des exemples et dont on sait que c'est un art absolument passionnant et même éventuellement joyeux. Je donne l'exemple des activistes américains qui pratiquent cet art et qui justement savent que, par exemple, quand on se risque dans une manifestation, il faut surtout pas prendre en otage les participants et les envoyer dans des situations qui les dépassent complètement qu'au contraire, il s'agit de créer la situation, de penser la situation sur un mode tel que chacun puisse y participer sans trahir ni le groupe, ni non plus ses propres capacités d'agir. Donc, c'est toute une pensée, quand je dis on a besoin que les gens pensent, c'est pas pense théorie, c'est pense très concret. C'est pense non pas seulement qu'est-ce que nous voulons faire, mais comment le faire et par rapport à quoi il va falloir résister. C'est en ça que les mouvements d'usagers sont des mouvements dont je pense qu'ils doivent accepter leur dimension proprement politique par rapport à de l'innocence. Non, non, ils sont engagés à leur manière dans une lutte contre ce qui, sinon, les détruira.
Alors, ça, c'est du côté des usagers. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une synergie avec le scientifique? Et là, vous me paraissez assez pessimiste sur les scientifiques. Vous dites donc que les scientifiques sont pris dans l'économie de la connaissance, que le capitalisme les a expropriés, que les scientifiques sont expropriés par le capitalisme et par l'économie de la connaissance. Du coup, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une lutte installée du côté des scientifiques? Comment est-ce que les scientifiques pourraient être en lutte et rejoindre le mouvement des usagers?
Je crois que, contrairement aux informaticiens, les scientifiques ont montré que à part quelques individus pour lesquels j'ai la plus haute estime, hein, je cite Star, je cite Christian Vélo, et il y en a d'autres, mais que collectivement, les scientifiques ont montré qu'ils n'étaient pas capables de résister. Et les universités non plus. Nous nous faisons évaluer sur un mode destructif. L'État, là, prend des initiatives que le capitalisme ne lui demandait même pas. Le capitalisme n'a jamais demandé de détruire la philosophie en publiant des listes de revues où il faut publier. Enfin, passons. Mais je crois que donc on ne peut pas attendre des scientifiques motu proprio qu'ils participent à ce mouvement. Mais je suis pessimiste au sens justement où peut-être que de rencontrer un milieu beaucoup plus lucide sur ce qu'on peut demander aux scientifiques Bien, peut-être que de rencontrer un milieu qui s'adresse à eux sur ce mode-là, nous savons que malheureusement que nous n'avons pas grand-chose à attendre de vous, nous savons que vous êtes en train de vous faire manger, on pourrait dire, eh bien, peut-être que ça peut les faire réfléchir. Donc, mon pessimisme ne veut pas dire une condamnation, c'est une tristesse certainement, mais c'est pas une condamnation, c'est une manière de parler d'eux qui peut-être peut avoir une certaine efficacité. Encore une fois, je vous dis, je vise l'efficacité, pas le jugement moral. Mais en ce qui concerne le scientifique, je crois que être efficace par rapport à eux, c'est affirmer les raisons pour lesquelles on ne peut pas, pour le moment, leur faire confiance globalement. À certains, oui, mais comme communauté, non.
Ben merci beaucoup, Isabelle Stengers. Merci beaucoup d'avoir bien accepté de répondre à mes questions en direct par téléphone.